Et je vous invite donc à lire pour ce culte de rentrée un texte dans l'Évangile selon Marc au chapitre 5, les versets 1 à 20. Marc chapitre 5, versets 1 à 20, dans le prolongement de ce que nous avons dit, nous sommes les témoins du Dieu vivant. Marc 5. Donc Jésus et ses disciples ont traversé le lac de Galilée, essuyé une tempête. Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Géraséniens. Aussitôt qu'il fut descendu du bateau, voici qu'un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de Jésus. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pourrait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds, il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse dans les tombeaux et sur les montagnes, nuit et jour, criant et se blessant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accouru, se prosterna devant lui et cria : Pourquoi te mêles-tu de mes affaires, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait : Sors de cet homme, esprit impur. Il lui demandait : Quel est ton nom ? Mon nom, lui répondit l'esprit, c'est Légion, car nous sommes beaucoup. Et il le suppliait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Or, il y avait là, près de la montagne, un vaste troupeau de cochons en train de paître. Les esprits impurs supplièrent Jésus : Envoie-nous dans ces cochons, que nous entrions en eux. Et il leur permit. Les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les cochons, et le troupeau se précipita dans la mer du haut de l'escarpement. Il y en avait environ 2000, ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les hameaux, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus et voient le démoniaque assis, vêtu dans son bon sens, lui qui avait eu la légion, et ils eurent peur. Ceux qui avaient vu ce qui s'est passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et l'histoire des cochons. Alors ils se mirent à supplier Jésus de s'en aller de leur territoire. Comme ils montaient dans le bateau, celui qui avait été démoniaque suppliait Jésus de le garder avec lui. Mais Jésus ne lui permit pas et lui dit : Va-t'en chez toi, auprès des tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu compassion de toi. Il s'en alla et se mit à proclamer dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient étonnés. Jusqu'ici, notre lecture. Voici un récit étrange, un récit hallucinant qui nous projette dans un monde inquiétant. Un homme qui fait sa demeure parmi les morts, qui rôde de tombe en tombe, poussé par un instinct de mort, des forces du mal puissantes et personnelles confrontées à Jésus. Un dialogue étrange où la bouche de l'homme possédé sert de canal à d'autres que lui, aux forces du mal qui l'habitent, qui le dominent. L'autorité de Jésus sur les démons, un immense troupeau qui se jette à la mer et au bout du compte, un homme seul. Et un homme, un seul, au bénéfice de cette action. Le premier témoin envoyé par Jésus en terre païenne sera cet homme au parcours étrange, à la délivrance tumultueuse. Et cela devrait nous donner une perspective pour notre rentrée. Mais vers quelle zone étrange nous dirigeons-nous avec un tel récit ? Vers quelle frange extrême de la réalité ? Alors que la rentrée, c'est précisément retrouver la normalité, faire face à la vie de tous les jours. Écoute, il y a un autre texte juste avant qui serait certainement beaucoup plus approprié que celui-là pour la rentrée. Même pas besoin de tourner la page, ce sont juste les versets qui précèdent. On voit Jésus qui est sur une barque avec ses disciples. Il apaise la tempête. Il ramène le calme. Il montre qu'il est maître de tous les éléments, même de ceux qui nous menacent. Il invite à la foi. Cela, c'est un texte pour la rentrée. Ça, c'est bien. Ça, on en a besoin. Voilà un texte qui nous touche, qui nous rejoint. Alors restons sur la barque de l'Évangile, c'est bien plus raisonnable. D'autant que cette barque, sur les flots, c'est aussi une image de l'Église et du Seigneur qui agit pour les siens au cœur des tempêtes. Ok, pourquoi pas. On va changer de texte. On va changer. Et on reprend le récit qui précède. Marc 4, verset 35, premier verset du récit. Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Passons, a dit Jésus, sur l'autre rive. Jésus n'a pas dit « Allons faire quelques ronds dans l'eau. » Jésus visait, en entrant dans la barque avec ses disciples, Jésus visait l'autre rive. Cette rive où l'on élève des troupeaux de porcs. Cette rive où l'on ne respecte pas la loi de Dieu. Cette rive où l'on fait tout différemment de ce qui se passe en Israël. Cette rive où l'on avait adopté un mode de vie à la manière païenne pour se fondre dans l'Empire romain, s'insérer dans la culture qui désormais fait loi. Cette autre rive si différente, dont certains se tiennent bien précautionneusement à distance par peur de se souiller ou de se mettre en danger à chaque pas, à chaque rencontre. C'est là que Jésus a voulu conduire ses disciples ce jour-là. C'est là, sur cette rive, que Jésus a voulu aborder. C'est là que Jésus emmène ses disciples. Et si la barque sur le lac représente l'Église, c'est là que Jésus veut son Église, sur l'autre rive, et pas en train de faire des ronds dans l'eau. Sur cette autre rive, on sera confronté aux forces du mal. Mais soyons clairs, les forces du mal étaient à l'œuvre aussi sur la rive d'Israël et dans des cœurs bien ornés, bien habillés, par parfois beaucoup de respectabilité et de religiosité. Mais Jésus se rend sur l'autre rive parce qu'il faut que le règne de Dieu s'étende aussi là-bas. Jésus se rend sur l'autre rive pour manifester ce règne, pour apporter une espérance, pour marquer par son action qu'il n'y a aucun lieu sur cette terre qui ne doivent être considérés comme une zone de non-Dieu, comme une zone interdite à l'action bienfaisante du Seigneur. Jésus, en passant sur l'autre rive, revendique cette rive et revendique pour cette rive le droit de pouvoir avoir un témoignage du royaume de Dieu qui vient. Alors cela se traduira par une confrontation avec les forces du mal, certes, et Jésus ne cédera pas un pouce parce qu'il veut planter le drapeau de l'espérance et de la délivrance sur cette rive là-bas. Et il tient bon l'objectif. Quand Jésus nous invite, nous son peuple, nous son Église, à prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est aujourd'hui encore une prière pour nous, bien sûr, mais aussi une prière pour l'autre rive, la rive de celles et ceux qui ne savent pas encore que Dieu est un Dieu vivant, la rive de celles et de ceux qui ne peuvent pas encore chanter ou rendre témoignage de l'action de ce Dieu vivant, de celles et ceux qui ne savent pas encore vraiment que Dieu est un Dieu qui fait du bien, qui restaure et qui sauve. C'est là qu'il veut aujourd'hui encore manifester son règne. C'est là qu'il veut aujourd'hui encore étendre les cordages de son royaume, élargir l'espace de l'attente de son salut. Or, qu'y a-t-il là-bas? Qu'y a-t-il là-bas sur l'autre rive? quand nous cessons d'être juste entre nous sur la barque qui nous porte et parfois nous ballotte. Qu'y a-t-il là-bas sur l'autre rive où nous sommes appelés, nous aussi, à planter le témoignage du Dieu vivant ? Le personnage que l'on rencontre sur l'autre rive est inquiétant. Alors ce texte veut-il nous faire peur, nous mettre en garde ? Pourquoi nous raconte-t-il une confrontation aussi étrange ? Le récit se centre sur cette personne, c'est vrai. Mais, si on lit bien le texte, l'autre rive est le pays des Géraséniens, nous est-il dit au verset 1 du chapitre 5. Autrement dit, parmi eux, il y a cet homme, bien sûr, mais il y a aussi tellement d'autres gens tout à fait communs. Des gens qui habitent leur maison, qui habitent leur ville, et non des cimetières. Des gens qui ont une occupation comme tout le monde. Ils sont éleveurs, ils sont agriculteurs, ils sont commerçants, pères et mères de famille. C'est pour eux tous que Jésus veut aller sur l'autre rive. Et nous qui lisons ce texte et ce récit plus particulier, nous en tirerions presque la conclusion de ce récit, que là-bas, sur l'autre rive, il n'y a que des possédés, que des gens étranges, qu'on n'y fera que des rencontres difficiles. C'est drôle, comme on a vite fait, de plaquer sur les autres des caricatures, des généralisations, des peurs, des épouvantails. Veillons surtout à ne jamais agir ainsi à l'égard de celles et ceux qui nous entourent. Gardons un regard accueillant pour chacun dans ce qu'il est. Et s'il faut être attentif lorsque nous allons vers d'autres ou que nous nous hasardons un petit peu aussi dans des lieux où le mal existe et se manifeste, bien sûr, s'il faut être attentif, soyons vigilants à ne pas donner prise au mal nous-mêmes. Soyons vigilants par rapport à nous-mêmes, pour rester nous-mêmes intègres, pour rester nous-mêmes droits, pour rester nous-mêmes fidèles à ce que nous sommes et à ce que Jésus nous appelle à être. Mais ne traduisons pas cette vigilance face au mal dans le sens d'une sorte de suspicion des autres ou d'un jugement a priori sur tous les autres. Parce que nous serions simplement dans la projection qui n'est pas juste, qui n'est pas droite. Nous ferions un petit peu, pour nos relations, ce que dénonce la Bible avec humour à propos du paresseux. C'est le paresseux veut pas travailler, et un des proverbes dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans la rue. Autrement dit, on crée une caricature pour excuser son inaction, pour ne pas bouger. Alors ça peut exister pour la paresse, et qui sait, cela peut aussi exister lorsque nous envisageons de nous rendre auprès de nos contemporains, pour être témoin du Dieu vivant. Mais alors pourquoi cette description si détaillée de ce personnage étrange et inquiétant rencontré par Jésus là-bas sur l'autre rive ? La description qui nous est faite laisse entrevoir un personnage totalement paradoxal. On souligne son étrangeté, il a sa demeure dans les tombeaux, une étrange parenté avec la mort, une étrange fascination pour ce qui est morbide, pour ce qui est noir. On souligne aussi sa rupture sociale. Il n'habite plus dans la ville, parmi les siens. Il est à l'écart. Et cette rupture se double du fait qu'on a essayé de le lier avec des fers, avec des chaînes. On s'est donc opposé à lui. On a essayé de le maîtriser, de se protéger de lui. Et voilà qui scelle définitivement la coupure et l'isolement. Il sait désormais qu'il n'a plus sa place parmi les siens. Et cela précipite sa vie dans son monde à part. Mais il ne quitte pas les siens sans avoir donné le change. La force des puissances qu'il habite lui permet de briser tous les fers. Il peut apparaître alors face à ceux qui le rejettent comme l'indomptable, celui que personne ni rien à qui rien ne résiste. La force est pour lui. Il suscite un mélange de crainte et de fascination. Pour ses contemporains, c'est un cas, le cas certainement. Pour certains, probablement, il est aussi une légende. Pour tous, en tout cas, un sujet de discussion. Mais cet homme ne s'appartient plus. En ville, il est pour tous ce que l'on dit de lui. Il est ce que l'on raconte sur lui. Il est ce que l'on imagine sur lui. Il est ce que l'on fantasme à son propos. Et tout au fond, où en est-il ? Quand il est parti, ayant brisé ses fers, il a pu se sentir victorieux, supérieur, libre, trois fois libre, indomptable. Mais la suite du texte montre que tout cela n'est qu'apparence, artifice, vêtement scintillant d'un moment qui cache une misère profonde. Car la puissance qui a pulvérisé des chaînes est en fait une puissance qui tient cet homme, qui l'a servi, qui l'étouffe. L'homme fort n'est en fait que le jouet de plus fort que lui. L'homme libéré de ses chaînes est en fait sous l'emprise d'un pouvoir qui ne respecte rien en lui, qui ne lui respecte ni sa volonté, ni sa personnalité, ni même son corps. Il est sans cesse dans les tombeaux, dans les montagnes, nuit et jour, criant et se blessant avec des pierres. Survivance d'un mois dans ce cri qui résonne dans la montagne, mais d'un mois écrasé, d'un mois blessé, qui ne trouve d'autre issue que de se retourner contre lui-même. Nous avons ici l'illustration que le diable est vraiment le père du mensonge. Ses promesses de libération sont des enfermements. C'est ce qui arrive dans des cas concrets de possession comme celui-ci. Mais c'est ce qui arrive également et pareillement lorsque, sans qu'il y ait possession, on cède à certaines séductions qui prétendent libérer, mais qui prétendent libérer pour ensuite mieux asservir. C'est par exemple la triste réalité des addictions. Au départ, les comportements adoptés étaient censés rendre plus fort, ôter certaines inhibitions, permettre de mieux s'éclater, de franchir ses frontières, de gagner le gros lot. Et l'on se découvre finalement prisonnier, ligoté, asservi par toutes sortes de chaînes, les jeux d'argent, les jeux de rôle, le monde virtuel, l'alcool, le shit, le sexe, les mélanges détonnants. Mensonge que tout cela, et des esclavages qui limitent tellement, même si on essaye de faire bonne figure devant les autres. Mais pourquoi cet homme, cet unique, dans un texte qui nous invite à passer sur l'autre rive pour porter plus loin le message du règne de Dieu ? C'est que justement pour Jésus, cet homme qui nous paraît étrange tout comme il l'était pour ses contemporains, cet homme est un unique et cet homme reste un unique. Jésus n'a pas cédé à la simple caricature qui ne voyait en lui que le personnage étrange et inquiétant. L'objectif de Jésus, c'était la personne, c'était restaurer cette personne dans son intégrité, restaurer cette personne dans sa pleine humanité, restaurer cette personne dans sa pleine relation avec Dieu. Et tout le récit nous montre la valeur unique que Jésus accorde et encore et accorde malgré tout à cet homme. Sa délivrance est décrite comme une restauration, en des termes simples mais tellement forts. Lorsque les gens de la région viennent auprès de cet homme qui a été délivré, il nous est dit qu'il le voit assis, portant des vêtements et dans son bon sens. On ne dit pas priant, louant Dieu, sautant et exultant de joie. On parle plutôt de normalité retrouvée. Vous savez, cette normalité des choses simples que l'on découvre inestimable quand on sait ce que peut vouloir dire en être privé. C'est comme la paix. C'est comme la paix que l'on retrouve après qu'on en a été privé. Chaque sourire, chaque parole qui relie, chaque moment où on est bien ensemble devient juste un miracle. C'est cette restauration que l'Évangile souligne. Et cette restauration est en contraste total avec ce qu'était cet homme avant, un homme divisé, assujetti, enserré par des puissance qui l'empêchait d'être lui-même, qui l'empêchait d'exister, qui l'empêchait de décider. Lorsque Dieu s'approche de nous, son objectif est de nous permettre d'être pleinement nous-mêmes, dans la pleine possession de ce qu'il nous a donné, en vue d'une relation, d'une ouverture à lui, où nous existons pleinement, comme personne pleine et entière, dans le vis-à-vis que Dieu veut établir avec nous. C'est cela, ce que Jésus visait en abordant sur le rivage des Géraséniens. Il le voulait pour tous ceux qu'il rencontrerait, pour chacun en fonction de son vécu, restaurer l'homme dans sa pleine dimension, dans son intégrité, dans une relation harmonieuse avec son Créateur. C'est cela qu'apporte l'Évangile. Et ce récit nous dit que s'il n'y a qu'une personne à un endroit, qu'une seule personne qui reçoit cela, ça vaut la peine d'aborder sur sa rive, sur la rive de cette personne-là. On remarquera la démesure. Il y a Jésus, plus une équipe de 12. Ils se déplacent tous. Ils vont sur cette autre rive, et ils vont au final pour une seule personne. Démesure des chiffres, d'une certaine façon. Démesure, peut-être croirons-nous, des engagements. Mais la logique comptable n'a pas sa place ici, car il s'agit justement d'une personne, d'une personne. Et comme un berger qui cherche sa brebis, son unique, cela n'a pas de prix pour le Seigneur, une personne, c'est tout ce qui compte. C'est le sens aussi que Jésus a donné à la perte de ce troupeau de porcs. 2000 porcs perdus, c'est quand même immense. 2000 porcs, pour les éleveurs, c'est 4000 jambons, c'est 4000 épaules, c'est des dizaines de milliers de côtelettes ou d'escalopes qui sont perdues. C'est ça, la réalité. Économiquement, la perte est immense. Et Jésus, certainement, n'était pas insensible à ce que représentait cette perte, mais cela permettait aussi, cela permettait encore de dire la valeur unique d'une personne, d'une seule personne, la valeur unique de cet homme, à nouveau assis, vêtu et dans son bon sens, et pouvant s'ouvrir désormais à son Créateur. Et comment ne pas rappeler ici, puisqu'on parle d'engagement, de nous souvenir que Jésus lui-même, Jésus le premier, n'a pas compté le prix. Jésus lui-même a donné sa vie, a souffert la mort pour chacun des uniques que nous sommes, vous et moi. Alors j'aimerais que nous demandions à Dieu qu'il nous donne quelque chose de son amour pour ces uniques aux yeux de Dieu, qui nous entoure, nous aussi. L'Évangile nous invite à être prêts et désireux de passer de l'autre rive pour aller à leur rencontre, aller sur leur rive à eux, à leur rencontre. L'Évangile nous invite à avoir à cœur d'être pour ceux que nous côtoyons, ceux que nous connaissons, ceux qui nous connaissent, ceux que nous apprécions dans nos relations de tous les jours, à être pour eux des témoins du Dieu vivant. L'Évangile nous invite à avoir de l'espérance pour eux, tout comme Jésus a eu de l'espérance pour cet homme, et que nous ayons de l'espérance pour eux à cause de ce que Jésus peut faire dans leur vie. L'Évangile nous invite à regarder plus loin que l'horizon de la barque de notre Église, où nous vivons bien des bonnes choses entre frères et sœurs. Mais le Seigneur veut que cette barque soit pour nous le moyen d'aborder d'autres rives, d'autres personnes. L'Évangile nous invite à penser, à prier, à espérer concrètement pour telle personne, pour telle autre que nous connaissons. L'Évangile nous invite à aborder sur leur rive à eux et non pas toujours à vouloir les faire entrer dans notre barque à nous. L'Évangile nous invite à le faire. Mais notre texte, l'Évangile, nous encourage aussi. parce qu'il nous rappelle que Jésus est à la hauteur des situations que nous pouvons rencontrer, de toutes les situations que nous pouvons rencontrer. Il a des ressources pour agir, pour transformer, pour restaurer, pour faire du bien. Je termine par un dernier mot. Vous voyez que je ne traite pas tout ce que ce texte soulève, je poursuis un axe particulier. Ce texte nous montre Jésus prêt à tout pour un unique. Mais ce texte nous dit aussi que Jésus a eu à garder le souci de tous les gens, des gens plus ordinaires, dirons-nous, des habitants de toute la région. Ces gens, pourtant, ont supplié Jésus de quitter leur région. Ils ont eu peur pour leur revenu après la perte de ce troupeau. Mais Jésus ne s'est pas arrêté à ce refus. Il les a gardés dans la perspective de son amour. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit non à l'homme qui avait été délivré et qui voulait monter avec lui dans la barque. Il lui a dit non, tu ne viens pas avec moi dans la barque, parce que ta place est désormais auprès des tiens. Ta place est auprès des tiens. Il y a un espoir, un message pour eux aussi. Il faut qu'ils te voient. Il faut qu'ils voient le bien que Dieu t'a fait. Il faut qu'ils entendent de ta bouche ce que tu as reçu de Dieu, la compassion dont tu as été l'objet de la part de Dieu. Ta place est là. C'est ta mission. J'ai le souci des gens de ta région. J'ai le souci des gens que tu connais. J'ai le souci de ces gens que tu fréquentes, qui te connaissent aussi. J'ai le souci même de ceux qui m'ont supplié de partir. Il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils voient. Ça prendra peut-être du temps pour qu'ils comprennent. Il faut dépasser certaines préventions, mais ce n'est pas grave. S'ils voient, s'ils comprennent le bien que Dieu t'a fait, ils pourront réfléchir autrement que leur première réaction. Ils trouveront peut-être même un jour que ça valait la peine d'avoir perdu quelques bêtes. C'est ainsi que Jésus voit les choses. Il a le souci que sur bien des rives, dans bien des situations, dans bien des cercles de relations, celles et ceux qui ont besoin de lui et qui le cherchent puissent être mis au bénéfice de son action, de sa compassion, de son salut. Et quel est le moyen pour cela? Le moyen, c'est qu'il y a des hommes, des femmes, qui, là où ils sont, là où on les connaît, puissent dire à ceux qui les connaissent et les voient vivre, « Dieu a fait pour moi de belles choses. Dieu a eu compassion de moi. Et je peux te dire, je veux te dire, que connaître Dieu, ça vaut la peine. » Sommes-nous prêts à être de ces gens-là pour ceux qui nous entourent, en toute simplicité? Sommes-nous prêts à demander à Dieu qu'il nous prépare, qu'il nous utilise dans ce but-là? Nous n'avons peut-être pas de délivrance extrême à raconter, de témoignages hallucinants comme celui de cet homme, mais là n'est pas la question. Là n'est pas du tout la question. Dieu veut aussi se servir des gens ordinaires pour parler aux autres gens ordinaires. Il s'agit simplement que nous puissions dire, simplement, voici ce que Dieu a fait pour moi. Voilà ce que veut dire pour moi connaître Dieu comme un Dieu vivant. Racontez vraiment ce que Dieu a fait pour moi. Racontez sa compassion envers moi. Racontez ce que Dieu a fait également dans l'histoire. Dieu veut se servir de gens ordinaires pour parler aux gens ordinaires qui les côtoient. Dieu veut se servir de gens vrais qui parlent vrai pour dire le bien qu'il leur a fait et la compassion dont ils ont été l'objet. Ça vaut la peine que nous réfléchissions à ce que nous pouvons dire à ceux que nous connaissons, à ceux qui nous côtoient. Ça vaut la peine de prier surtout, de commencer par là, de nous mettre à la disposition du Seigneur, pour que sur toutes les rives de notre quotidien, nous puissions être des témoins du Dieu vivant. Il y a tellement de gens qui auraient besoin d'entendre qu'il y a un Dieu vivant, qu'il y a un Dieu de compassion. Jésus est allé au-delà, au-devant de ces personnes parce qu'il les aimait. Demandons-lui la grâce pour cette année qui s'ouvre, et c'est un peu notre thème. Demandons-lui la grâce de pouvoir prendre le relais. Que nous soyons chacun ensemble ces témoins du Dieu vivant. Ensemble, nous tous là, on représente quand même un sacré potentiel. Amen.